Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, je suis aujourd'hui avec M. Raphaël Jérusalmi, qui vient de publier aux éditions David Reinhardt un livre « Tribune de guerre 2023-2025 ». Ancien officier du renseignement israélien et écrivain, formé à l'École normale supérieure à la Sorbonne, l'auteur nous aide dans ses textes stimulants à dépasser les positions partisanes et les habitudes moralisatrices pour aborder de manière particulière, nécessaire, la guerre avec le Hamas depuis le 8 octobre 2023. Bonjour, monsieur Jérusalmi.
Bonjour.
Bien, dans votre passionnant livre Tribune de guerre, vous nous aidez à décrypter les mécanismes de la désinformation et, pourrions-nous dire, à nous armer contre l'incompréhension, le mensonge et la haine, si je traduis bien votre démarche. Et je vous remercie d'illustrer tout de suite cette démarche et votre objectif fondamental en publiant ces tribunes.
Oui, alors absolument, le livre est un recueil d'analyses qui nous permettent, au jour d'aujourd'hui, de marquer une pause tactique. Et là, l'actualité vient dans mon sens, dans la mesure où il y a une sorte de ralentissement de la course effrénée des événements que nous avons connus durant ces deux dernières années. On attend de voir si le plan Trump va passer à la phase 2, on attend de voir ce qui va se passer sur différents théâtres d'opération comme au sud Liban, au sud de la Syrie, si l'Iran va se refaire une santé, si les Houthis du Yémen vont rester calmes pendant le cessez-le-feu. Donc on est dans un moment où on peut effectivement se reprendre, se regrouper nous tous après tout ce que nous avons subi, et réfléchir pas tant au passé qu'à l'avenir. Vers où va-t-on ? Et donc, ce livre a en premier lieu le but déclaré de rassurer le public, le lecteur. Pour rassurer les gens, c'est très simple. Il faut d'abord mettre de l'ordre dans le désordre, c'est-à-dire, vu justement la déferlante d'événements, inclus d'ailleurs en France aussi l'antisémitisme, il y a un théâtre d'opération et un front exactement pareil que n'importe quelle lutte ou guerre à mener, il faut d'abord mettre de l'ordre dans le désordre, voir quelles sont les choses essentielles à retenir et à observer. Ensuite, il faut dégager l'écran de fumée de la désinformation, parce qu'il y a énormément de nouvelles et d'informations qui ne sont pas importantes et même parfois trompeuses ou menteuses. Donc, une fois que les gens ont une image plus claire de ce qui se passe, de l'actualité, ils sont déjà moins anxieux. C'est plus rassurant de savoir et de comprendre mieux ce qui se passe. Ensuite, effectivement, il faut armer le public. Il faut lui donner des arguments, il faut lui donner des faits et des chiffres indiscutables face à la déferlante de mensonges qui, on le voit surtout dans une certaine presse ici en France, anti-israélienne d'une façon choquante, qui n'est même pas du tout éthique sur le plan journalistique. Donc on doit armer le public contre ça. Et aujourd'hui, ce livre est, parmi d'autres actes citoyens, oserais-je dire, un acte aussi citoyen, un acte de résistance, une sorte de refus d'accepter toute la désinformation autour d'Israël, avec donc la particularité, c'est mon style, c'est on annonce à chaque fois ancien officier des renseignements militaires israéliens, et c'est pas pour rien. Ces analyses, même quand je traite de l'antisémitisme en France, sont basées sur la méthode de travail des officiers du renseignement, qui se divise en trois parties. La collecte de l'information, les informations que je donne sont fiables, irréfutables, parce que je sais qu'on m'attend en tournant, et donc je ne vais pas donner quelque chose qui ne soit pas vérifié, avoir des sources. Le second, c'est le tri, effectivement, quelles sont les choses vraiment importantes à retenir, car parfois, certains incidents font beaucoup de bruit, mais n'ont pas véritablement d'impact sur l'avenir, surtout les incidents antisémites, des fois, sont très très choquants, mais ne signifient pas nécessairement que la situation des Juifs de France périclite plus qu'on ne le croit. Et puis, en fin de compte, donc l'analyse et même des conseils pratiques, surtout par rapport à l'antisémitisme, il y a des conseils que je donne comme action citoyenne par rapport aux médias qui sont donnés. C'est important de ne pas juste analyser, mais bien tirer des leçons, des conséquences. Et en dernier ressort, car mes articles sont assez différents, Ils ont d'ailleurs été triés, on va en parler, par Mohamed Sifaoui. En dernier ressort, il y a quand même aussi pas mal d'articles où l'humour, l'arme ultime, ça va être en fin de compte l'humour et jeter un peu la dérision sur nos adversaires. Alors voilà en gros le but de Tribune de guerre, qui bien sûr relate malgré tout une période très difficile à vivre pour nous tous.
Vous avez dit quelque chose de très important, intéressant, c'est que l'antisémitisme, faire attention à la manière de le lire, de le penser, pour ne pas être dans la panique, pas être parfois dans l'imaginaire. Peut-être pouvez concrétiser votre démarche. Je sais que un intellectuel, j'ai oublié le nom, un sociologue très connu, dit que le peuple d'en bas, c'est-à-dire la population française de base, n'est pas particulièrement antisémite, que c'est plutôt dans d'autres couches de la population qu'il faut chercher le problème. En tout cas,
Exactement, il
quelle est un petit
parle.
peu, vous, votre lecture? Évidemment, nous avons peu de temps ce matin, nous y reviendrons une autre fois, j'espère,
Oui.
mais peut-être nous éclairer un tout petit peu sur votre lecture de l'antisémitisme en France.
Je pense qu'il y a un antisémitisme en France et qui n'est pas uniquement le fait des islamo-gauchistes. Il y a un antisémitisme de droite, il y a un antisémitisme catholique, il y a plusieurs sortes d'antisémitisme qui sont là, latents, et qui l'ont toujours plus ou moins été dans la société française, on le sait depuis l'affaire Dreyfus. Ceci étant dit, aujourd'hui, je pense véritablement de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je lis, mais aussi de mes rencontres donc avec des Français de toutes sortes, qu'il y a une majorité de Français qui ne sont pas antisémites et surtout pas anti-israéliens. Il y a aujourd'hui une conjoncture en France où le Français est très inquiet de l'avenir de sa propre démocratie, de l'avenir de son propre pays. Il est inquiet et inquiété par des forces néfastes qui s'adressent, c'est vrai, d'abord aux Juifs, avec une campagne de haine contre les Juifs, mais qui, en fin de compte, vise toutes les valeurs républicaines, et pas seulement les valeurs juives, et la démocratie française. Mais d'un autre côté, donc je le dis, il y a une forte majorité qui voudrait mieux comprendre, mieux apprendre. Je dis toujours, il faut pas perdre son temps à polémiquer avec les antisémites. Monsieur Mélenchon, vous n'arriverez pas à le changer. Il est irrécupérable. Par contre, il y a énormément de gens en France qui aimeraient bien comprendre, bien savoir, être mieux informés sur le conflit au Proche-Orient, par exemple, et qui restent plus ou moins intellectuellement honnêtes. Un autre aspect que j'ai signalé, c'est effectivement, concrètement, lorsque je vois dans certains journaux un jeune a mis des croix gammées sur des tombes juives. Alors c'est horrible, évidemment, de mettre des croix gammées sur des tombes juives. Mais c'est jamais le fait que d'un seul imbécile, qui tout d'un coup jouit une notoriété médiatique qu'il ne mérite pas, cette notoriété médiatique inquiète, tracasse, mais en plus elle appelle au copycat, elle inspire, elle peut inspirer d'autres jeunes à faire la même chose. Et je trouve souvent que on s'obnubile un peu trop sur certains incidents plutôt mineurs antisémites, aussi désagréables soient-ils, et qu'on ne comprend pas qu'il y a une immense majorité de la France, le personnage que vous citez, j'ai aussi oublié son nom, il parle d'un antisémitisme résiduel. Donc, il est d'accord avec moi sur ce point que, dans l'ensemble, moi je le vois tous les jours, et puis j'ai des connaissances dans l'armée et ailleurs, en France, il y a un soutien à Israël assez ferme, les gens sont quand même pas complètement idiots, et ne laissent pas tous des journaux complètement idiots. Et donc, même s'ils sont mal informés, ils ont du bon sens, et avec le bon sens français cartésien, ils font bien la part des choses.
Alors je reviens sur votre livre, donc Tribune de guerre 2023-2025, publié aux éditions David Reynard, Monsieur Jérusalemi, avec qui nous sommes en entretien. Il y a un élément particulier dans votre livre, c'est la présence et les commentaires du journaliste Mohamed Sifaoui. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce choix. Qu'est-ce que ça apporte de plus à ce livre et à votre réflexion?
Alors, j'en profite pour rendre hommage à mon éditeur David Reinhardt. C'est lui qui a eu l'idée de m'adjoindre Mohamed Sifaoui comme commentateur de mes textes. Je le salue au passage parce que David Reinhardt, c'est un éditeur engagé qui n'a pas froid aux yeux, qui prend même des risques en ce moment en continuant à publier des livres qui sont extrêmement pro-israéliens et qui défendent le peuple juif malgré l'ambiance actuelle. Donc, et c'est lui qui a eu l'idée de m'adjoindre Mohamed Sifaoui, qui est une excellente idée dans la mesure où Mohamed Sifaoui pour ceux qui ne connaissent pas, est un politologue éminent, très érudit, il sait de quoi il parle, il maîtrise les domaines que je couvre aussi bien que moi. Il a l'avantage d'être un journaliste d'investigation et d'avoir infiltré les mouvements salafistes et avoir dénoncé leurs actions même sur le sol français. Et il a en plus une très fine plume, il écrit très très bien et il est très très pointu dans ses analyses. Et donc ses commentaires sont un ajout évidemment, ils permettent une meilleure lecture de ce que j'ai écrit, il est un petit peu le lecteur primordial, il donne son avis et l'intérêt c'est qu'on n'est d'ailleurs pas toujours d'accord, donc il crée une sorte de petit débat à l'intérieur de ce livre. Et on peut opter pour son opinion ou la mienne, ce que nous partageons tous les deux, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur certains points, c'est la franchise du langage, la sincérité et un amour de la vérité, de l'honnêteté intellectuelle que nous partageons, même si parfois il y a ces différences, et donc ces commentaires sont parfois tout aussi porteurs de messages que mes analyses.
Très bien. Merci beaucoup pour cette précision importante, parce que ce n'est pas banal, cette intervention au sein de votre travail. Le troisième point que je voulais avoir avec vous, qui est fondamental, c'est comment voyez-vous, à la place où vous êtes et qui connaissez bien les problèmes, l'avenir d'Israël ? C'est-à-dire comment vous imaginez combiner à la fois ce que vous appelez la fermeté stratégique d'un côté et la reconnaissance des réalités humaines et politiques de l'autre côté pour aller vers une solution politique réaliste que vous appelez clairement de vos voeux ? Donc voilà, je résume un petit peu ce qui me paraît fondamental qu'on puisse entendre de votre bouche.
Bien, on le voit justement très clairement aujourd'hui. L'actualité nous rend service dans la mesure où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est en train de marcher sur une corde raide. Les Nations Unies viennent d'entériner le plan Trump et ce plan Trump ne va pas tout à fait dans le sens de la politique actuelle du gouvernement israélien, dans la mesure où il ouvre la voie à des négociations en vue de la création d'un État palestinien, dans la mesure où en parallèle, pour qu'il fonctionne, on essaie d'encourager une normalisation avec l'Arabie saoudite, en échange de laquelle Trump promet un armement sophistiqué comme les F-35 et même le nucléaire civil, toutes choses donc qui vont à l'encontre de ce que souhaite Israël aujourd'hui sur le plan géopolitique. Et donc Benjamin Netanyahou a félicité Donald Trump pour ce vote de l'ONU, pour cet entérinement de l'accord Trump. Et là, évidemment, on voit bien qu'il est obligé de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire que nous allons maintenant vers quelque chose qui peut être extraordinaire, c'est-à-dire un apaisement général de la situation au Proche-Orient, des normalisations, des cessez-le-feu qui pourraient tenir. Tout cela donc vaut peut-être la peine de prendre certains risques. Et ces risques-là sont effectivement le fait que des pays comme l'Arabie Saoudite obtiennent un armement qui est pas bon pour nous sur le plan militaire, le fait qu'on envisage encore une fois la création d'un État palestinien, mais croyez-moi, je vous rassure tout de suite, on est loin, loin, loin d'avoir un État palestinien, et donc l'avenir d'Israël se joue ces jours-ci sur des tas de fronts. La même chose avec le Hezbollah, on est peut-être à la veille d'une reprise des combats, de même d'ailleurs que nous le sommes à Gaza, car le Hamas refuse d'obtempérer et de désarmer. Donc il se peut que malgré toutes les bonnes volontés diplomatiques et les sacrifices auxquels Israël est prêt pour travailler avec la Maison Blanche à une paix au Proche-Orient, il se peut que nous n'ayons pas le choix sur le plan sécuritaire, militaire, de défendre notre territoire et nos citoyens à nouveau et de repasser à l'attaque parce que malheureusement les factions terroristes ne veulent pas rendre leurs armes, ni le Hezbollah, ni le Hamas. Il y a une incertitude en Syrie avec l'ingérence possible de la Turquie qui est une ombre extrêmement menaçante, qui est peut-être l'ennemi principal aujourd'hui encore plus que l'Iran. Évidemment la possibilité que l'Iran se refasse une santé et veulent attaquer Israël. Donc on est ici véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un tournant. C'est la raison pour laquelle ce livre doit marquer ce qu'on appelle justement dans l'armée une pause tactique. Il faut marquer une pause, il faut bien réfléchir aux options qui se présentent à nous, tout en ayant cette leçon terrible du 7 octobre et de ne plus être amadoué, endormi et pris par surprise dans un sens qui met en danger l'existence de notre État.
Vous venez de parler stratégie avec une analyse de l'actualité. Il y a un autre aspect, c'est les réalités humaines et politiques, parce que je sais votre humanisme, je sais votre intérêt, votre respect de l'ensemble des populations du Moyen-Orient. Et comment vous imaginez, au bout du chemin, peut-être, une solution politique réaliste qui fait que l'ensemble des populations de cette zone pourront aller vers une paix, enfin un équilibre qui permettra à chacun de retrouver un minimum de vie normale dans ce monde si difficile.
Je pense qu'il va falloir une constellation de gouvernements différents qui soient capables d'atteindre à cet objectif. En ce moment, par exemple en Israël, nous avons un gouvernement qui est plus ou moins détenu en otage par une frange d'extrême droite, qui donc va bloquer, et le Premier ministre en a fait les frais plusieurs fois, on la menace à chaque fois qu'il va à droite ou à gauche de quitter le gouvernement. Je parle de la frange d'extrême droite du gouvernement actuel, qui l'empêche un peu de manœuvrer d'une façon plus souple. Je pense que Benjamin Netanyahu, on peut pas dire que c'est un homme de gauche, hein. Et donc il a sa politique, il a une politique très ferme, surtout la politique sécuritaire. Mais parfois, il aimerait pouvoir manœuvrer. Et la preuve, il a aujourd'hui, justement, l'actualité verse de l'eau à mon moulin. Il a, comme je l'ai dit, félicité le plan Trump, alors que les ministres comme Ben-Gvir ou Smotrich crient à la catastrophe, exigent qu'on rejette absolument le plan Trump et menacent une fois de plus de déstabiliser le gouvernement et de quitter la coalition. Cette fois-ci, donc, le Premier ministre n'a pas cédé au chantage parce qu'en face, il a quand même le président américain, Donald Trump, qui pèse un petit peu plus lourd dans la balance, je pense, que certains ministres israéliens. Et donc, c'est là qu'on voit. Et c'est la même chose dans tous les autres pays avec qui nous avons affaire pour normaliser. C'est la même chose avec le nouveau régime syrien, par exemple. Va-t-il véritablement montrer patte blanche et va-t-il se montrer raisonnable pour que nous puissions avoir au moins une non-guerre? La même chose avec le nouveau président libanais. Va-t-il, au lieu d'accuser sans arrêt Israël d'occuper le sud du Liban, reconnaître qu'Israël l'aide à récupérer le Liban et la sécurité et le destin libanais contre l'ingérence du Hezbollah? Il y a ici, ça dépend beaucoup des dirigeants, des gouvernements en place, jusqu'au jour où il y aura peut-être, comme je l'ai dit, donc une constellation de plusieurs gouvernements de plusieurs pays du Proche-Orient, inclus Israël, qui va permettre une meilleure concertation et d'aller de l'avant, et moins d'avoir des hostilités entre nous. L'histoire le dira.
Bien, écoutez, monsieur Raphaël Jérusalemi, nous aurions envie de vous poser d'autres questions, mais je rappelle aux auditeurs et auditrices que vous serez à Dijon dimanche 23 novembre, pour une conférence invitée par l'association France-Israël. Et nous aurons, j'espère, l'occasion de pouvoir à nouveau vous interviewer, car évidemment, ça me démangeait d'aller plus loin sur ce sujet passionnant qu'est l'avenir d'Israël. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de cette interview. Je rappelle que nous étions avec M. Raphaël Jérusalemi, qui vient de publier Tribune de guerre 2023-2025 aux éditions David Reinhardt, qu'on peut trouver dans les bonnes librairies et sur Amazon. À très bientôt, monsieur Jérusalemi.
À bientôt, merci de m'avoir reçu.
Et bonne conférence à Dijon.